Et au Laker, oubliez pas vos bottes parce que ça caille aujourd'hui.
Attention, qui que vous soyez, attention, cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences.
Sans blague! Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza?
Mais toi, c'est t'as un petit peu un voleur aussi!
Elle va porter plainte pendant qu'on y est!
Vous voulez porter plainte?
Je passe l'éponge.
Un iceberg droit devant!
Et après? Une fois que t'as dribblé le destin, tu fais quoi?
Plan séquence.
Alors, ça vous fait peut-être pas tellement plaisir de l'entendre, mais votre mère, elle a un cul qui va très bien. Va mieux que jamais, même.
Ça n'est jamais assez. On ne leur fait jamais gagner assez d'argent. Qu'est-ce qu'on devient dans cette histoire? Qu'est-ce que deviennent les salariés?
Sur Radio Campus Tour.
Je suis ton père.
T'es incapable de m'aimer! Incapable de m'aimer!
Petite saloperie de païen communiste, t'as vachement intérêt à me dire que t'aimes la Sainte Vierge, ou je te détripe moi un coup de pompe, tu m'entends? Alors dis-le que tu l'aimes, la Sainte Vierge, dis-le, mon guignol!
Chef négatif, chef!
Chut, regarde, comme c'est joli. Y'a Bambi qui fait dodo.
Tous les jeudis soirs.
Il y a trois mots qui sont importants pour moi. Inspiration, création, partage.
Cinglé? Ah, c'est ça? Ah, tu me crois givré à mort?
Les choses entraînent les choses, le bidule crée le bidule, il n'y a pas de hasard.
Bonjour, c'est Léa Drucker, vous écoutez Plan Séquence sur Radio Campus.
Bonjour à tous et à toutes, vous êtes à l'antenne de Radio Campus Tour, le 99.5 FM, dans votre émission Plan Séquence. On est le samedi 14 juin. Tous mes petits camarades sont partis en vacances ou font la fête au car et du coup dorment en ce samedi matin. Donc je suis toute seule aux manettes, mais pas toute seule néanmoins dans le studio puisque nous avons des invités ce midi. J'ai le plaisir d'accueillir sur cette antenne quelqu'un qu'on ne présente plus sur campus puisque tu es déjà venu plusieurs fois, mais quand même, tu vas te représenter quand même pour les nouveaux auditeurs qui nous rejoindraient peut-être. Alex Guéry, réalisateur Tourangeau. Ça va bien, Alex?
Ça va, ouais. Merci.
Et puis, juste en face de toi, alors j'espère ne pas écorcher ton nom de famille, Emma Kunzler.
Kunzler.
Ouais. Je vais t'appeler Emma si tu... ravi de t'accueillir aussi dans l'émission. Avant, vous venez présenter ton nouveau court-métrage. J'ai regardé là, toute ta filmographie, du coup, plus de 70 courts-métrages. Si ça se trouve, j'ai vu sur ton site internet, si ça se trouve, il y en a même qui ne sont pas mentionnés.
On
n'arrive même plus à se rappeler des titres.
On va dire que c'est une liste non exhaustive, mais qui ne fonctionne pas vraiment non plus, parce que j'ai commencé, j'avais 10 ans, donc
les courts-métrages produits.
Il n'y en a que quelques-uns.
Ça doit dépasser la centaine, et un long métrage aussi. Juste avant de commencer, quelques informations sur des séances qui vont avoir lieu prochainement et notamment dans nos chers cinéma studios. Demain après-midi, donc le dimanche 15 juin, peut-être qu'il aura un prix ce soir au Festival du cinéma film d'animation d'Annecy. C'est un coup de cœur, Amélie et la métaphysique des tubes. Et du coup, si vous voulez le voir, ça sera au cinéma studio et c'est une avant-première puisque le film sort le 25 juin, adapté du livre d'Amélie Nothomb, La métaphysique des tubes. C'est pour moi, c'est un de mes coups de cœur du cinéma d'animation cette année. C'est un super film sur l'enfance, comme rarement il y a eu, en cinéma d'animation en tout cas, à partir de 7 ans jusqu'à 77, voire au-delà évidemment, 100 ans. Et il y aura la productrice, puisque le film a été produit à Tours, par la société Ikifilm. Nidia Santiago sera au cinéma studio et ça a été aussi réalisé en partenariat avec Cyclic. Parce qu'on est une terre de cinéma d'animation depuis plusieurs années maintenant et ça fait plaisir. Et le film est en compétition à Annecy, donc peut-être qu'il repartira avec quelque chose ce soir. Sinon, mardi qui arrive, mardi 17 juin, une avant-première au cinéma studio toujours, Reflet dans un diamant noir, suivi d'une rencontre avec Hélène Katté et Bruno Forzani, un cinéma qui m'a l'air bien expérimental et qui, je pense, vaut vraiment le détour. C'est à 19h45, mardi qui arrive. Et dernière chose, mercredi 18, dans le cadre de la fête de la musique, un film qui s'appelle Kneecap, film irlandais. Et il y aura un échange voilà, autour de la musique et du hip-hop notamment, puisque le film parle de ça. Pas que, mais en partie. Voilà, pour les petites infos, et ben on va enchaîner voilà, sur votre venue. Nouveau court-métrage, je le disais, en attendant demain. Peut-être avant de parler voilà, du projet, si... Vous pouvez vous présenter pour les auditeurs.
Emma.
Moi je m'appelle Emma Kinsler, je suis une jeune réalisatrice, j'ai fait des études de cinéma à Lyon et puis j'ai rencontré Alex parce que j'ai fait une formation au sein de l'Académie du Loup Blanc et puis après on a travaillé ensemble sur plein de projets, notamment de l'écriture et puis ça nous a mené à faire ce film ensemble et puis voilà.
Et moi, c'est Alex Guéry, du coup réalisateur, un peu multicasquette avec le temps, parce que surtout passionné de cinéma, j'ai voulu un petit peu toucher à tout pour découvrir un petit peu l'envers du décor de comment on fait un film. Et voilà, et du coup, ça fait quelques années que je réalise des courts-métrages en particulier, et donc voilà, je... voilà. Et depuis 2018, je m'amuse à passer devant la caméra.
Est-ce voilà. que c'est ça, depuis c'était le film aux petits oignons,
ouais, exactement.
Ça, le premier. Et là, tu es à la fois réalisateur et acteur aussi du film, alors que d'autres productions, tu n'étais pas forcément les deux.
Ouais, exactement. Mais bah, là, ça faisait un peu partie du challenge. C'était de faire une co-réalisation et de passer devant la caméra. Parce qu'effectivement, bah, pour revenir sur Aux petits oignons, donc de Cyriac Labergère, ça a été un peu une première, parce que la dernière fois que j'avais joué devant la caméra, c'est quand j'avais 10, 11, 12 ans, voilà, avec les camarades de quartier. Et avec Cyriac, qui m'a fait repasser devant, et du coup, je me suis rendu compte de tout le plaisir que ça procurait, mais je ne me sentais absolument pas légitime. Donc voilà. Et là, depuis un an et demi, bientôt deux ans, voilà, j'ai pris cette légitimité, puisqu'il y a d'autres choses plus importante, plus grave, et en fait j'accepte de prendre du plaisir, que ce soit du coup derrière ou devant la caméra.
Mais en 2018, du coup, c'est Cyriac qui t'avait proposé, enfin comment ça s'était ça s'était fait naturellement, du coup cette
non,
première
Ouais, bah en fait le truc c'est que moi il était un peu tout le temps avec moi, avec nous, et donc on l'avait challengé sur l'idée de faire un court-métrage. Donc il a écrit un sort de premier de l'an, il nous a proposé ce scénario de Aux petits oignons qui était vraiment, vraiment très très bien. Et en fait, on a voulu lancer un casting, il m'a dit non, ce sera toi le personnage, okay. Auquel j'ai dit non, puisque je ne suis pas comédien, donc il y a plein de gens qui font ça très bien. Et on a commencé un casting, mais à la fin, il a voulu que ce soit moi quand même. Et j'ai joué le jeu. Et à côté, c'était donc Justine Thibaudat qu'on retrouve en attendant demain, presque 10 ans plus tard. Donc voilà.
Et toi, Emma, dans la réalisation, la co-réalisation, du coup, comment t'es arrivé sur ce projet-là et est-ce que au niveau du scénario, enfin, comment l'idée est née et après d'en faire une co-réalisation, parce que c'est pas travailler à deux, c'est pas forcément quelque chose. Surtout, c'est ton. Désolée, je digresse totalement dans ma question, mais c'est la première fois que tu réalises un court-métrage ou c'était où t'as eu d'autres expériences avant. Et est-ce que la différence avec une co-réalisation
C'était pas ma première réalisation, mais dans ces conditions-là, oui, c'était la première fois que j'avais vraiment une équipe artistique et technique. On n'avait pas une énorme équipe, mais quand même, où j'étais responsable pas que de moi-même et de deux autres personnes. Et puis c'est la première fois aussi que j'allais au bout d'un projet et que j'allais le montrer, parce que y a des choses que j'ai pas montrées, que j'ai tournées. Et du coup, en fait, avec Alex, on a pas mal d'idées de plein de choses. Lui, il est plus fort que moi pour après scénariser, se lancer. Moi, j'ai un peu de mal, mais on avait parlé de cette idée qui est devenue En attendant demain, et c'est lui qui l'a écrite, qui l'a vraiment développée en scénario. Et après, on s'est dit que vu que c'était une idée de nous deux et qu'on se connaît quand même bien et qu'on s'entend bien, on pouvait faire cette co-réalisation. Et pour moi, c'était aussi... Il m'a aidé à aussi prendre ma place parce que je me sentais peut-être pas forcément légitime aussi, et puis un peu peureuse, mais donc ouais, ça m'a aidée. Mais c'est vrai que c'était difficile pour lui parce qu'il était aussi acteur et acteur principal. Donc on s'est divisé les rôles parce que moi j'étais plus une réalisatrice technique, enfin j'étais plus avec mon équipe technique et Alex il était plus avec les comédiennes et lui-même parce que voilà, j'ai pas une grande expérience en direction d'acteur encore, mais donc voilà, en fait on a réussi à trouver un équilibre et puis à rebondir dans toutes les péripéties.
Parce que ça doit pas, du coup pour la mise en scène, comment ça, toi tu t'occupais de ce que je comprends du coup de toute la technique, du cadre. Et du coup, pour la mise en scène, comment ça se passait? Vous aviez un peu fait une ébauche avant, ensemble, avant le tournage, par exemple?
Ouais. Mais en fait, le côté binôme, là, était important sur le rapport de confiance. Parce qu'en amont, bon, on a travaillé l'idée. Derrière, on a eu cette idée. Ensuite, effectivement, j'ai développé le scénario. Mais après, on a fait des allers-retours. Donc, moi, je serais un petit peu moins catégorique sur l'idée que c'est moi qui ai écrit ce scénario et qui l'ai développé. Pour moi, c'est un travail d'équipe. Mais le truc, c'est que après, effectivement, la particularité, c'était de, en ce qui me concerne, de lâcher prise sur l'idée que je n'allais pas être derrière, que j'allais pas être derrière la caméra et donc aux côtés de l'équipe technique, qui pour autant était la mienne. Donc voilà, on a envie d'être avec eux, mais il fallait que je sois devant et là c'est effectivement lâcher prise, faire confiance. Après on se faisait énormément d'allers-retours sur le combo, sur Emma venait me voir en disant qu'est-ce que t'en penses du cadre, etc. Après elle travaillait donc avec Timmy Macaire, qui était le chef opérateur sur ce projet, et donc le travail du cadre se faisait sur le plateau avec des références qui étaient les nôtres sur toutes les discussions qu'on a pu avoir, ou du storyboard, même si c'était quelques croquis, mais dans l'idée on avait un petit storyboard et voilà.
Et au niveau, peut-être resituer, si vous voulez dire un peu le pitch, c'est un court-métrage qui fait 8 minutes, à peu près, une comédie romantique, enfin un film romantique cas, peut-être pas comédie à proprement parler, mais si voilà, vous voulez pitcher le film.
Mm-hmm. Emma fait ça très bien.
Ouais, j'en étais sûre. en fait, c'est donc En attendant demain, c'est l'histoire de Gabriel, un trentenaire qui travaille dans la pub à Paris, qui va revenir dans son village natal le temps d'un week-end, et puis qui va être rattrapé par des souvenirs et des vies qu'il a laissées derrière lui, et ça va remettre en perspective un peu lui, ses choix qu'il a fait et ceux qu'il pourrait potentiellement refaire. Et donc voilà, notamment avec une ex-relation amoureuse avec laquelle il va renouer et qui, elle, est restée dans cette ville natale. Donc voilà, on voulait mettre en perspective un petit peu cette idée de des choix de vie quand on a la vingtaine, trentaine, quand on commence à avoir du recul sur des choses qui nous ont fait partir ailleurs et qu'on revient et que c'est aussi bien de rester, enfin que en fait tout est possible et que voilà, et que c'est...
Et c'est marrant, quand tu le pitches, en fait, je pense, j'avais pas forcément tilté en regardant le film, mais maintenant que tu le pitches, c'est évident, ça fait penser à Partir un jour.
Mais en plus, on est allé le voir, et c'est vrai que on a vu le lien aussi, et qu'en fait, c'est un sujet, alors qu'en plus, eux, c'est des personnages qui ont plus la quarantaine, qu'en fait, ça peut se poser toute la vie, ça pourrait même se faire à 80 ans, j'imagine, c'est... Et on a trouvé ça super chouette, et peut-être que c'est un sujet qui est dans l'air du temps. Enfin, c'était marrant de voir ce film.
Je sais qu'il y aura un autre film qui sortira plus tard et qui est adapté d'un livre qui s'appelle Connemara de Nicolas Mathieu, qui est aussi pour les gens qui ont une quarantaine d'années. Mélanie Thierry qui va revenir pareil. Mais c'est plutôt un drame, alors que là, il y a quand même aussi de la... Je dirais pas de la légèreté, mais quelque chose quand même de lumineux aussi dans le film. C'est pas, y a de l'optimisme aussi, en fait. Et c'est ça aussi que vous vouliez faire, d'avoir quelque chose qui soit aussi lumineux, qui soit pas uniquement quelqu'un qui regrette sa vie.
Ouais, complètement. Et puis c'était surtout l'idée de se poser la question à soi-même, de se dire, en fait, quand on prend des décisions, est-ce qu'elles sont bloquées et puis ça s'arrête là, il faut passer à autre chose, ou est-ce qu'on a le droit de prendre une décision, d'avancer, puis de se dire en fait c'était peut-être pas la bonne, j'ai testé des choses et puis finalement je me rends compte de ce que j'avais, et
c'est pas grave et c'est ok,
et c'est, voilà, mais après Bah, il y avait toujours. Enfin, moi, je sais que j'aime bien. Je suis un grand adepte des histoires d'amour, mais parce que je pense qu'on en a besoin et je pense que dans le monde dans lequel on vit, on l'oublie un peu trop souvent que voilà, l'amour est quand même quelque chose de très positif. Et du coup. Bah là, ouais, je sais pas, enfin, même pas par rapport à Partir un jour, quand évidemment on est allé voir le film, on s'est fait toutes les remarques sur ouais, mais c'est incroyable parce qu'en fait, voilà, ça pourrait être une version longue du court-métrage. En tout cas, dans la thématique,
genre, voilà,
bien sûr, mais dans la thématique. Et effectivement, je pense que bah, En attendant demain, c'est tout simplement universel et ça peut parler à plein de monde. Là, les quelques personnes qui l'ont déjà vu, effectivement, quel que soit l'âge, en fait, nous font la même remarque que bah, c'est marrant parce que moi j'ai déjà vécu ça, etc., etc. Les doutes que j'ai pu avoir, les décisions que j'ai prises. Et voilà, donc tout ça, c'est chouette. Et je pense que c'est aussi ça, le cinéma, c'est de poser des questions et puis de pas forcément apporter des réponses, mais dire, bah voilà, c'est des moments de vie et puis à chacun d'en prendre ce qu'il veut et puis d'en prendre ce qu'il veut au moment où il peut recevoir aussi le film. Parce qu'il y a des gens, peut-être dans 2 ans, ils le verront de manière complètement différente et comprendront beaucoup plus de choses. Et je pense que là, le côté, comme Amélie Bonin, le côté, en fait, on dépasse la quarantaine et on traite ce genre de sujet. Ouais, je pense qu'effectivement, quand on a plus la fin de trentaine, quarantaine, on aborde plus facilement ce genre de sujet parce qu'on peut déjà se rendre compte de toutes les décisions qu'on a faites et sur lesquelles on pourrait déjà revenir un peu en arrière. On voudrait revenir en arrière, se dire ouais, « en fait, je pourrais gagner du temps » ou « je ferais ça autrement ». Et en même temps, c'est très bien d'avoir fait ça parce que ça nous construit.
Et est-ce que vous aviez des références de films en écrivant le scénario?
Au souvenir, non, pas vraiment. Après, c'était plutôt des expériences, des ressentis plus personnels ou des discussions.
C'était plus des ambiances même esthétiques. Enfin, on avait plus des inspirations de décors et qui nous ont peut-être plongé aussi dans une écriture et qui ont créé certaines scènes. Ça, oui. Enfin, ouais. On avait cette idée de pluie, cette scène sous la pluie avec des parapluies qui a forcément du coup commencer une histoire d'une certaine manière, enfin commencer l'histoire. Mais après, sur l'histoire, non, je pense pas.
Je pense en fait, un de mes films préférés, c'est La vie est belle de Capra.
Ouais.
Pareil, en fait, il essaye de. Enfin, il se rend compte en fait que tous les choix dans sa vie ont eu une importance et que s'il avait refait sa vie avec d'autres choix, les gens autour de lui n'auraient pas eu la même vie. Mmh. C'est pas la même histoire, mais il y a une ambiance
c'est un peu vertigineux, ouais.
Ouais.
Mais non, là, c'est vrai qu'on n'a pas eu de référence particulière.
Ce que je voulais redire aussi par rapport au fait de quand on a du recul à 40-30 ans sur les choix qu'on a fait avant, moi, je trouvais intéressant et c'est ce qui aussi a fait que on s'est un peu confronté dans l'idée, dans le scénario. C'est que bah, moi, je suis un peu plus jeune qu'Alex et je trouve que même à la vingtaine, et bah, on n'a pas le même recul qu'à 30 ou 40 ou 50 ans, évidemment. Mais ce film, par exemple, il peut nous permettre de se rendre compte que bah, les choix qu'on va faire, parce qu'en fait, on y est dans ce début de choix, de chemin qui vont dans tous les sens et on peut être un peu perdu en sortie de bac et qu'en fait, tout est un peu possible. Et je trouvais que ça résonnait quand même pour bah, les jeunes. Même Partir un jour, je trouve qu'il y a quelque chose où on peut se rendre compte qu'en fait, mais même si on est parti, on peut revenir. Enfin, il y a quelque chose aussi, même sans l'avoir vécu, ça peut parler, je pense, aux jeunes. Enfin, c'est ça qui est intéressant dans ce sujet-là. Voilà.
Mmh. Et en parlant de revenir, vous avez filmé aussi sur un territoire, le territoire... Enfin, voilà, ouais. Il y a la ville aux dames, notamment, qui est citée dans le film, et vous avez tourné là-bas. C'était important aussi pour vous, dans le processus aussi de création du film, de tourner sur le territoire ?
Oui, bien sûr. Après, moi, j'ai arrêté d'en faire mon combat. Mais pendant très longtemps, ça a été mon combat de pouvoir prouver qu'on pouvait faire plein de belles choses en région Centre-Val de Loire. Mais je le pense toujours. Après, c'est juste que j'ai cessé d'en faire un combat. Donc voilà. Mais ici, c'est un décor à ciel ouvert. Et sans rentrer dans du trop perso, mais... en 2023, moi, j'ai pas tourné et du coup, pour des raisons personnelles qui ont fait que j'aurais pu, que je pourrais être encore dans une attente de retrouver le goût à refaire des films et à ressourire à plein de choses. Et en fait, la rencontre avec Emma. Et ce court métrage, pour moi, a été une vraie, une sorte de vraie bénédiction, puisqu'en fait, ça m'a donné envie de tourner ce film, de reprendre la caméra. Et donc, il y avait aussi ce cadre, ce contexte où on voulait, au-delà de tourner ici, parce qu'on avait entre autres le soutien de la ville aux dames. De la mairie de la ville aux dames, il y avait cette envie de créer un cadre qui soit plutôt intimiste, avec une petite équipe, donc équipe réduite de volontaires, avec des gens qui soient un mélange de professionnels et d'amateurs, parce que dans ce cadre-là, l'important c'était d'être entouré de passionnés et sans enjeu particulier où on se dit pas « oh là là, il y a une grosse pression financière ou je sais pas quoi » et puis derrière... Non, en fait, le but, c'était vraiment de se faire plaisir, de renouer avec... de trouver cette place où on se sent bien, on se sent avec une équipe, où on se dit, OK, c'est la bonne, parce qu'on est content d'être avec ces gens-là, quels qu'ils soient. Et voilà, donc pour moi, en tout cas, ce cadre se justifie de cette manière-là aussi. Enfin, ça fait partie d'un tout, mais je sais que j'y suis allé parce que c'était là.
Ça marche. Et du coup, ce court-métrage, voilà, il a été réalisé, il va vivre sa vie en festival. Ouais. À quel moment il en est là de sa vie, ce court-métrage ?
En gros, il est parti en festival dès le mois de janvier. Donc on peut se dire qu'à peu près au mois de janvier 2026, ce sera sa fin de vie de festival. Et après, peut-être qu'il y aura des programmes télé ou je ne sais pas quoi. Mais en tout cas, pour le moment, sa vie, c'est ça. C'est donc un an de festival. Et à l'heure actuelle... On a eu 4 ou 5 réponses, avec donc 4 ou 5 réponses plutôt favorables, avec des sélections officielles, avec des nominations, avec des prix, des mentions honorables, ouais, ou des prix. Et puis voilà, donc en gros, pour le moment, il voyage un peu. Les premiers retours sont donc du Japon, où il y a eu 2 prix, 3 nominations.
Que vous l'avez envoyé à combien de festivals pour que les auditeurs se rendent compte nombre de festivals
Je crois que là, on l'a envoyé à une dizaine de festivals. Ouais. Dizaines de festivals.
Est-ce que vous ciblez du coup par rapport aussi à la thématique
Oui, bien sûr, parce que il y a beaucoup de... déjà il y a un paquet de festivals. Après l'idée c'est de pas faire des festivals qui sont forcément des premières années, parce qu'en fait il faut donner sa place à chacun et il y a des c'est peut-être tout bête ce que je vais dire, mais des festivals de première édition ont beaucoup moins de films en compétition de manière générale, donc on peut dire que l'accès est peut-être un petit peu plus simple. Donc là on est plutôt sur des festivals où on est sur des 10e éditions, voilà, parce qu'on essaie de jauger aussi par rapport au film. Sur le Magasin des Folies par exemple, qui était un de mes derniers, on était plutôt sur des festivals entre 15 et 25 ans d'édition. Donc là on se place plutôt sur de la 10e édition, quelque chose comme ça, et puis on essaie de le faire voyager à travers le monde, parce que l'idée c'est aussi à travers les festivals de voir comment un film, en l'occurrence français, peut être reçu au Japon, aux États-Unis, on l'a envoyé en Amérique du Sud, on l'a envoyé un peu partout, et évidemment en France. Donc voilà, pour le moment, les retours sont plutôt bons. Vous êtes allé
le présenter sur un des festivals en question, ou c'est trop loin?
Ouais, malheureusement pour le moment, on n'a pas pu parce que c'était un peu trop loin. Mais on aurait bien aimé aller au Japon, visiter Tokyo, ça aurait pu être cool. New York, etc. Mais on espère, évidemment, secrètement, avoir une sélection sur un festival français, parce que là, évidemment, on pourra prendre la voiture ou un train et puis hop,
aller... On peut le dire ou pas, les festivals français sur lesquels vous avez envoyé le film ou sélectionné, on peut pas...
La liste des noms. Ouais, c'est ça. J'ai pas la liste particulière.
Super. Et est-ce qu'il y a quelque chose que ça soit la production, le tournage, qui a été un peu plus compliqué, ou des choses que vous aviez en tête et ça a été compliqué de les mettre en œuvre sur le, ça soit au montage ou au tournage, où tout ce que vous aviez imaginé, vous avez pu le faire.
Je vais te laisser la parole, mais juste c'est important de préciser que on a dû mettre à peu près donc 6 mois de prépa, à peu près. Quelque chose comme ça. Mais pour le coup, là, le tournage a aussi duré pas mal de temps, puisque le scénario de départ, n'est absolument pas le scénario de fin.
Ah oui, ok.
Donc pour répondre à ta question, mais je vais laisser Emma. Là, c'était un peu rock sur celui-ci.
Ouais, bah après, comme on dit, un film, ça s'écrit au scénario, au tournage et au montage. Bah nous, on a fait les trois, je pense. Mais ouais, en fait, c'est que tout s'est aligné sur une semaine précise pour le tournage. Les disponibilités des actrices, parce que c'est des actrices professionnelles, Justine Thibaudat, Ilona Bachelier, qui ont gentiment accepté de venir sur notre projet, et c'était super. Et du coup, c'est compliqué de lier tous les emplois du temps, et puis les conditions météorologiques aussi, les lieux, les décors, c'était un peu sport. Et du coup, il nous a manqué un peu de temps. On a toujours du retard. Moi, j'ai toujours du retard sur mes plateaux, apparemment. Et donc, on a trouvé des solutions. On a eu un décalage de 3 mois. On a fait un premier tournage et un deuxième 3 mois après, où on a revu des choses au scénario pour qu'on arrive à ce deuxième tournage à filmer ce qui nous manquait. Mais on savait qu'il y avait des choses qu'on ne pourrait pas avoir. Donc on essaie de remodeler et de trouver des solutions. Et ça fait partie du jeu. Mais c'est sûr que c'est un peu sport et ça met le doute parce qu'on s'éloigne du plan A. Mais bon, ça fait partie de l'histoire. Et puis au montage aussi, on a forcément eu des choses qui ont posé problème, auxquelles il faut s'adapter. C'était beaucoup de prépa et le tournage assez rapide, quoi. Même pour les équipes.
Je rebondis parce que ce qui était intéressant aussi, c'est que la chance qu'on avait, c'est de pouvoir tourner dans la foulée montée. Et donc, parce qu'on a notre propre studio, donc ce qui fait que dès le soir, on peut regarder les rushs. Et puis Et donc, dans la foulée du tournage, on a pu commencer à faire le montage. Et globalement, j'ai envie de dire qu'on avait le film qu'on avait prévu de tourner. Maintenant, ce qui est passionnant, pour le coup, c'était un cadre qui offre une grande chance, c'est que quand on le monte, on se rend compte que la sensibilité, l'émotion, elle n'est pas là. Donc, à la lecture, ça marche. On se dit, OK, ça, c'est cool. Et sur la première version de montage, on se dit, waouh, on a loupé un truc. Et donc, évidemment, j'en prends la plus grande part de responsabilité, puisque pour moi, c'était au niveau du jeu. Où en fait le personnage n'existe pas de la bonne façon et puis je sais pas, donc il y a un truc qui colle pas et alors en plus je suis déjà très autocritique en tant que réal sur mon propre travail, alors là faut imaginer quand je me vois à la caméra je me dis mon dieu oh là là, pourquoi je suis devant cette caméra et puis j'ai tous les défauts du monde forcément donc c'est très très dur, mais du coup je suis encore plus critique mais donc là on avait cette chance d'être en co-réal. Et je pense que là, clairement, moi, c'est ce qui me sauve, puisqu'en fait, sinon, je ne sortirais pas le film, puisque je me vois. Mais du coup, je me repose beaucoup sur l'œil d'Emma. Et donc, on fait de la réécriture. On se dit, tiens, qu'est-ce qui manque ? Qu'est-ce qui manque sur le personnage ? Qu'est-ce qui pourrait devenir universel, qui ne l'est pas aujourd'hui ? Et puis on se fait de la réécriture et puis on replanifie le tournage, on réappelle les gens, qui est dispo, qui machin, qui ceci, on retrouve les décors et puis 3 mois plus tard on tourne. Et il s'avère qu'effectivement on l'a commencé en septembre et on l'a terminé sur le marché de Noël Tours et que d'un coup la magie du cinéma, du tournage, c'est que le personnage s'appelle Victoire, enfin le personnage joué par Justine Thibaudat s'appelle Victoire et sur le marché de Noël on se dit tiens bon maintenant on est à Noël, autant faire une ellipse qui du coup collait complètement avec le sens de l'histoire et ce côté de retour en arrière. Et en arrivant sur le marché de Noël, il y a un stand qui s'appelle Les délices de Victoire. Donc c'était le destin. Donc on a demandé très gentiment à cette dame qui nous a dit évidemment bien volontiers pour tourner. Donc on a fait nos quelques images dans ce stand de cette charmante dame. Mais ça c'est quand Emma elle dit un scénario, ça s'écrit, enfin un film, ça se fait à l'écriture, au tournage et au montage. Là, moi, ce que je trouve vraiment fascinant avec celui-ci, et même si je fais un peu de psychanalyse, que j'ai trouvé pour moi très bouleversant dans mon parcours, c'est que c'est la première fois, je crois, qu'il y a quelque chose qui s'écrit même après le montage. C'est-à-dire que vraiment à la diffusion, je répète, mais je suis très, très autocritique. Donc, quand je finis un montage, en règle générale, il va y avoir 9 versions après, parce que je suis jamais content. Mais là, ce qui est drôle, c'est qu'il y a un moment où assez vite le film m'appartenait déjà plus, parce que de base c'était une coréale, donc déjà je suis pas le seul. Et je me suis retrouvé avec les doutes d'Emma, avec mélangé à mes propres doutes, et puis avec là où moi j'ai des doutes, elle est en confiance. Donc du coup, cette expérience-là était vraiment fascinante, et j'en suis très reconnaissant. Mais le truc, c'est vraiment de voir l'attente que j'avais de ce film, et de voir en fait comment ce film a été reçu. Et en fait, là, vraiment, il y a un gros cap pour moi, parce que je pensais être beaucoup plus sous contrôle. Et là, pour la première fois, je me rends compte que je le suis pas du tout. Et pour le coup, je me sens hyper bien, parce que le film fonctionne bien, alors que je suis pas derrière la caméra, la technique, à tout contrôler, machin, etc.
On sent que ça le stresse un peu quand même.
Et voilà, donc c'était... Mais du coup, c'est passionnant, et j'invite vraiment tout le monde à faire des films de cette manière. Moment, être sous contrôle, c'est bien, mais vraiment avoir ce lâcher prise, tellement plus jouissif.
Et accepter effectivement de faire confiance, mais c'est vrai que quand on est dans le contrôle permanent, parce que c'est pas qu'on fait pas confiance aux autres.
Exactement, ouais, bien sûr.
Mais c'est la nature. Mais effectivement, quand on arrive à passer ce cap-là, et que le film en plus fonctionne, et fonctionne très bien, ouais, là on est content. Ouais.
Ouais.
Et alors, est-ce que vous avez, après ce beau projet, d'autres projets là en cours dont vous pouvez nous parler, ou c'est trop tôt?
Alors, bah oui, d'autres projets. Après, c'est peut-être un petit peu tôt pour en parler, mais en tout cas. Il y a des projets d'écriture qui sont, pour certains, qui sont finis, d'autres qui sont en cours. L'idée est toujours d'avoir plusieurs projets sous le coude. Mais globalement, c'est quasiment que des romances en ce qui me concerne, pour changer. Mais voilà, et puis envie de continuer d'écrire avec Emma Kinzler. Et puis je sais pas si on referait une choréale. pas que c'était pas bien de faire une choréale avec elle, hein. mais que vraiment l'exercice est très 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 difficile, sauf si on nous propose de faire Le Comte de Monte Cristo 2, là peut-être qu'on ferait une choréale, mais le truc c'est que non, ouais, je serais plutôt d'avis à l'accompagner sur un projet en tant que comédien ou dans son équipe technique ou l'avoir sur un de mes plateaux, Et je dis ça, et en même temps, si elle me proposait une choréale, je dirais oui. Donc.
Ouais, ça pourrait être marrant.
Ouais.
Et toi, Emma, tu souhaites aussi, pourquoi pas, passer aussi de l'autre côté de la caméra, ou rester toujours en technique, réalisation, montage?
Ouais, non, moi je suis bien derrière. Je pense que c'est vraiment un autre métier, hein, acteur. Moi, je les admire, je les respecte, je les comprends pas. J'essaie de les comprendre, et c'était hyper intéressant d'être justement avec Justine Thibaudat et Ilona Bachelier qui on sent que voilà, c'est leur métier et qu'elles sont rodées, et du coup j'ai hâte justement de travailler avec d'autres comédiens, comédiennes, acteurs, actrices, pour voir vraiment ce métier là et qui est essentiel, hein, parce que c'est eux qui sont devant, en ligne de mire, tout ça. D'où la responsabilité aussi d'Alex d'être à l'affiche sur ce film-là. Mais non, moi, c'est pas un métier qui me c'est un métier qui me fait un peu peur. Voilà.
Et je sais pas si vous voulez rajouter quelque chose, sur le projet qu'on n'aurait pas dit. Sûrement qu'on n'a pas dit plein de choses d'ailleurs. Mais...
Ouais, non, il y a toujours de toute façon un milliard de choses à dire. Après,
On espère que... Parce qu'on nous a pas mal demandé s'il y aura une projection. Donc on espère que on arrivera à en programmer une quand le film aura fini sa petite tournée de festival. Et puis donc ça pourrait être sympa.
Ouais, est-ce qu'il pourrait être sur des... Enfin, par exemple, je pense à l'agence du court-métrage. Est-ce que ça pourrait être un jour, en tout cas, un film qui soit programmé effectivement dans les cinémas en avant-séance, parce qu'il n'est pas long, donc...
Ouais, de toute façon, va falloir qu'on regarde tout ça. Si le film peut rentrer dans les bonnes cases, parce qu'il y a toujours un peu cette problématique quand même. Surtout quand un film est fait là, pour le coup, en totale indépendance.
Ouais.
Donc... Donc voilà, après évidemment que nous, l'objectif c'est que le film soit vu et qu'il puisse toucher un maximum de gens.
C'est comment aussi gagner, parce que vous êtes créateur et du coup c'est comment aussi en produisant un film, vous pouvez aussi réinvestir dans de nouveaux projets et du coup gagner un peu d'argent, même si vous n'en gagnez pas non plus pléthore, mais déjà que ça soit à niveau zéro, quoi. Ouais. Et avec le court-métrage, c'est compliqué de gagner des sous. Donc,
Clairement, parce que le court-métrage n'a pas d'économie en soi, c'est très compliqué. Et c'est pour ça que l'objectif à chaque fois, c'est de le prendre comme un exercice. Alors après, il y a des réalisateurs, réalisatrices de court-métrages dont c'est la vocation toute leur vie. Mais moi, en ce qui me concerne, c'est de passer au long et ce qui a déjà été fait donc en 2015, l'exercice c'est toujours de comprendre des choses, et puis forcément on grandit, donc à chaque fois qu'on grandit on apprend des choses et puis on a envie de les mettre en pratique, donc le court-métrage est facile pour ça, enfin facile, on s'entend, mais ouais. En tout cas, on connaît l'exercice. Donc voilà, après non, je sais pas qu'est-ce qu'il manquerait de dire rapidement. Après évidemment on profite du micro pour remercier encore toute la petite équipe.
Est-ce que c'est combien de personnes du coup en tout là sur le projet à peu près?
Une petite dizaine.
Ouais, donc c'est pas énorme pour.
Non, c'était vraiment une petite équipe, mais des gens qui se sont impliqués. Qui se sont impliqués à fond et puis avec légèreté, avec engagement et avec énormément de gentillesse, donc ça fait beaucoup beaucoup de bien, surtout quand on est dans une petite zone d'inconfort et qu'on a besoin du regard d'un regard confiant, enfin d'un regard complice, d'un regard bienveillant, parce que même si j'en profite vite fait, mais je remercie encore et je remercierai jamais encore assez Justine, donc qui est une amie depuis quelques années maintenant, et qui en fait quand on parlait de mise en scène, direction d'acteur, moi en ce qui me concerne, évidemment il y avait le regard d'Emma, il y avait les indications d'Emma, mais Justine m'a énormément dirigé, et surtout elle m'a fait ce qu'on appelle en comédie, enfin en jeu, beaucoup de cadeaux, c'est-à-dire qu'elle me lance le bon regard, le bon silence, la bonne réplique au bon moment, et ce qui fait que pour moi ça devient très facile d'avoir du répondant, et je m'excuse du coup auprès de Justine puisque je lui ai moins offert de cadeaux, mais en tout cas j'ai essayé de donner le meilleur de moi-même, donc voilà, et puis quel plaisir d'avoir Ilona qui est ma petite sœur de cinéma depuis longtemps maintenant aussi, et c'est toujours un plaisir de pouvoir partager ces moments, et le côté la famille du cinéma, c'est souvent surfait, mais pour le coup là ça prend tout son sens, puisque quand on travaille comme ça avec des gens qu'on apprécie tout particulièrement, c'est génial quoi, et j'invite tout le monde à travailler dans ces conditions et ne jamais oublier que c'est un métier passion et que c'est chouette, et même quand ça peut être très dur, faut pas oublier qu'on fait du ciné et qu'on fait des films et que tout ça c'est pour faire rêver les gens, à commencer par soi, donc voilà, n'oublions pas ça, même quand c'est difficile.
Et je pense que c'est une belle conclusion cette interview. Je vais vous passer une musique. Il y a un grand musicien, chanteur, qui est décédé il y a quelques jours, Brian Wilson, des Beach Boys. Et il y a 10 ans, sortait un super biopic qui s'appelait Love and Mercy. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille. Yes. Et j'ai exhumé une chronique d'il y a 10 ans, parce que je n'allais pas refaire la même qu'il y a 10 ans. Donc j'ai recoupé. Donc là, je vous passe Love and Mercy de Brian Wilson. Et ensuite, on remonte 10 ans en arrière et voilà, pour parler de Love and Mercy. Voilà, c'était une musique qu'on peut entendre du coup dans le biopic de Brian Wilson qui est sorti hier.
Brouillard, sang, amour, invention, rêve. Ah, l'inspiration, pardon. Vas-y, excuse-moi, je ne fais pas de pourrir ta chronique.
Ouais, t'entends des voix aussi, comme lui, c'est ça.
Oui, mais on a voté à l'unanimité pour dire qu'on n'était pas schizophrène. Vas-y.
Je vais vous faire une petite devinette pour commencer la chronique. Ah. Vous êtes prêts? Si je vous dis, 12 Years a Slave de Steve McQueen. À la merveille, Tree of Life de Terrence Malick, Le secret de Brockman Mountain, ou même ce chef-d'œuvre qui est Into the Wild, vous me dites. Le point commun. Okay. Vous me dites rien.
Elle
du
est dure, ta minette.
Répète.
Alors, le point commun entre tous ces films, c'est le producteur du film. Non, mais c'est super difficile.
Ça fait un gros cœur mort.
Enchaîne 5 fois. Alors,
voilà. Non, mais. En fait, le producteur de tous ces films, c'est Bill Pollard. Et ce producteur et le réalisateur, c'est son premier film du film Love and Mercy sur la vie des Beach Boys. Donc, un grand producteur, donc comme j'ai dit, premier film en tant que réalisateur. Et puis, quel film hein, tu pourras aussi dire quelques mots, Gripsy. À la fois.
Ouah. Pas des mots, des onomatopées.
À la fois, c'est un film géant qui mêle la quête inlassable d'un artiste pour devenir vraiment qui il est. C'est tout cela entremêlé d'un entourage qui n'a que faire un peu de sa musique. Hein. On veut vraiment se récupérer un peu les lauriers d'un tel talent. C'est un film aussi de cinéma avant tout. Il y a quand même des trouvailles de montage, de mise en scène. Ça fait vraiment qu'on s'ennuie pas une seconde. La vie de Brian Wilson, dont il est question donc, dans le film, est assez trépidante. Il y a pléthore à raconter, à explorer. C'est un immense film qui met en lumière la création jusqu'à la démence d'un génie à croire en sa musique. Parce que disons-le tout de suite quand même, Brian Wilson est un génie de l'histoire de la musique. À la fois précis, travailleur, il est possédé, angoissé et puis visionnaire.
Il est plus sympa que Phil Spector.
Le film est assez séparé en deux parties, qui s'imbriquent, les deux parties s'imbriquent quand même, elles vont au final se rejoindre. Il y a deux époques qui sont retranscrites, ok, je sais pas, qui sont retranscrites. Il y a deux acteurs qui incarnent donc Brian Wilson. La période de création, c'est Paul Dano, qu'on avait vu dans Little Miss Sunshine, notamment.
Young. La personne de création, il a créé encore jusqu'à maintenant.
Oui, non, mais la période où il a le plus créé, c'est évident, dans le film, parce qu'il y a l'autre période où il est plus dans la maladie, angoissé, et puis il est vraiment perdu, cette période.
Perdu, angoissé, effrayé.
Effrayé, ouais. Très bon mot, effrayé. Alors, la première période, on est dans les années 60, et l'autre période dans les années 80. Dans la première période, donc, on voit un mélange de travail, de timidité aussi maladive, la découverte des fêtes, de Dieu aussi.
Du LSD, parce que oui, malheureusement, voilà, c'est la période où, même si c'est dangereux pour la santé,
et jusqu'à quel point aller pour faire l'œuvre ultime, hein, c'est aussi ça la première partie du... Pas la première partie du film, parce que voilà, au niveau du montage, les deux sont... les deux parties sont dissociées, mais il y a pas, c'est pas linéaire, quoi. C'est pas un biopic où on voit de la naissance à maintenant. C'est pas du tout ça. Et c'est pour ça que
c'est du flashback désagréable, quoi.
Ouais, c'est assez singulier sur un bonhomme, ô combien singulier, quoi, Brian Wilson. Il ne vit que pour le son, les paroles, la musique, les harmonies, les sonorités. Ce qu'il recherche, c'est l'enregistrement parfait. Il y a tout ça qui est retranscrit dans le film. Et d'ailleurs, au passage, allez le voir dans une salle de cinéma parce que voilà, tous ces sons-là sont décuplés dans une salle. Il y a vraiment au studio, on l'a vu au studio.
Dans la grande salle.
Ouais, en plus, dans
parce que
salles.
Le téléchargement, c'est pas bien, c'est interdit.
Oui, en plus. Et
concrètement, le son au cinéma, c'est autre chose, quoi.
En 7.1, enfin voilà, on a des sons qui viennent vraiment de derrière. C'est génial.
Si vous avez découvert les Beach Boys comme beaucoup en écoutant ça en passage radio, nostalgie et compagnie, et ben là, vous découvrez la création, vous faites attention aux détails et vous entendez Good Vibration, comme ça m'est arrivé, j'ai senti les poils se hérisser ou des frissons et je me suis dit waouh, cette chanson là quand je l'écoutais elle me faisait pas ça.
Ouais, parce qu'on voit les petits détails, le perfectionnisme qu'il a, quoi,
des 32 prises pour avoir le staccato des violoncelles, ouais.
Et les petites épingles qu'il met dans le piano pour avoir
une dissonance, ouais.
C'est des petits détails.
C'est plus généreux qu'un film sur la musique comme Whiplash, par exemple, qui était dans le sadisme finalement, oui, et dans l'uber contrôle.
Mais il y a quand même de la. On pressent aussi dans son. Dans sa vie, à Brian Wilson, pas une domination de maître-élève, mais il a eu un père.
C'est Monsieur Jackson, quoi.
Ouais, c'est horrible.
Mais il a ce côté lunaire, et John Cusack le sert parfaitement, et surtout, c'est une belle histoire d'amour.
Voilà, j'allais
et c'est
finir.
Moi qui dis ça.
J'allais y venir. Donc, il a une histoire d'amour avec Melinda, qui est jouée par Elizabeth Banks, qu'on avait pu voir. Elle a joué dans des blockbusters notamment. Alors, j'ai noté dans sa bio Hunger Games et It's Girl. Et voilà, c'est peut-être son premier film qui n'est pas un blockbuster dans sa filmographie. Elle joue tout en retenue, elle prend vraiment le temps avec Brian, elle forge jamais. C'est quand même assez émouvant, leur histoire d'amour, j'ai trouvé. Donc ça, c'est la deuxième partie, de sa vie. Je vais pas vous en dire...
Allez le voir, allez voilà, point, allez le voir. Bougez-vous, en VO ou en VF, si vraiment vous préférez. Il est dans plusieurs cinémas à Tours.
Je finirai juste sur quelque chose. Bob Dylan pour le folk a eu I'm Not There. Il y a eu pour le rock le très bon Contrôle d'Anton Corbijn. Et voilà, pour la pop, on a enfin un très bon biopic sur Brian Wilson.
C'est vrai, on est loin de Nowhere Boy, quoi. Pour les Beatles. Ah bah voilà. Il y a plein de films musicaux.
Ouais, The Rose. Oui, The Rose. Pour le... Oui. Mais, ouais.
Mais on pourrait se faire un thématique cet été sur pas vraiment les films musicaux, tiens.
C'était pas vraiment un biopic, c'est pour ça que là, les trois que j'ai cités, c'est vraiment des biopics. Bah oui, mais... Faut être précis, hein.
Bon, arrête de chipoter.
Bon. Et en tout cas, allez le voir, voilà, c'est génial. Voilà, c'est un très bon film.
C'est la nuit, mais... Écoute, si le passé me parle d'autre vie, quelque chose me pousse à te chercher dans les rues de la vie.
C'était Pomme sur Radio Campus Tours. Pomme, elle joue et elle chante la chanson... Oh là, c'est une autre... musique qui part, pardon. Oui, Pomme, donc la chanteuse, joue dans le film La Venue de l'Avenir, le nouveau film de Cédric Clapiche. Alors, Cédric Clapiche, je ne vais pas forcément refaire toute sa filmographie, puisqu'il a, c'est son 15e film voilà, avec La Venue de l'Avenir. Il a commencé dans les années 90, c'est pour ne citer que quelques films que je vous conseille de revoir ou de voir tout simplement. Rien du tout, son premier film, Le Péril Jeune, qui a fait connaître l'acteur Romain Duris, qui ne joue pas dans celui-ci, je tiens à le... et puis après, évidemment, la trilogie autour du monde étudiant, hein, L'Auberge espagnole, Les poupées russes, et puis Casse-tête chinois. Et puis après, il a eu une autre période, et on est dedans avec encore Paris, et puis là, La Venue de l'Avenir. Il y a toujours ces thèmes de prédilection encore dans celui-là, c'est-à-dire des récits d'apprentissage, de transmission, la famille dans des espaces urbains, parce que lui, il est né à Paris, et quasiment dans tous ses films, il y a cette ville lumière qui est mise en exergue, et des quartiers. Là, on voit Montmartre. Enfin voilà, on sent qu'il adore cette ville, et ça se sent. Donc là, dans ce film-là, il revient aussi à un film vraiment choral, parce que dans Encore, on n'était pas forcément dans un film choral. Là, il y a une galerie de personnages de tout horizon, toute génération, pour raconter une histoire assez universelle. C'est l'histoire de quatre cousins éloignés qui se retrouvent par la force des choses à hériter d'une maison abandonnée qui a appartenu à une de leurs ancêtres. Et cette maison doit être détruite pour laisser place à une zone commerciale. Et sauf que dans ce quatuor de cousins, il y a un peu vraiment tous les styles, et notamment... qui est très drôle, Vincent Maiken, qui fait un apiculteur, qui lui est contre toute forme de technologie et aussi contre toute forme de zone commerciale pour laisser enrichir les plus gros actionnaires. Donc lui, il va défendre cette maison. Et dans cette maison, surtout, ils vont découvrir un peu un trésor, c'est-à-dire plein de photos, plein de choses qui appartenaient au passé. Ils veulent surtout découvrir qui était sur ces photos, qui a réalisé des peintures qu'ils ont pu découvrir dans cette maison. Et voilà, ça va naviguer d'une génération à une autre, puisqu'on a cette époque contemporaine, et on va traverser et côtoyer le passé pour essayer de deviner qui a vécu dans cette maison et qui était sur ces photos. Et là, on est replongé au début du 19e siècle, fin 19e, début 20e. Plein de jeunes acteurs, actrices, notamment Suzanne Lindon, Paul Kirchner, et j'ai oublié le troisième, Vassili Schneider, pardon, qui vont vivre là dans ce Paris du début 20e et découvrir plein de choses, et notamment les débuts du cinéma, les débuts de l'impressionnisme aussi, ce que ça se passe en fait entre 1870 et 1900, cette époque-là, et puis ensuite l'époque de 2025. Mais voilà, on va les voir découvrir le monde, puisqu'ils viennent de la campagne et ils vont découvrir la ville. Donc c'est vraiment les provinciaux qui arrivent à la ville et qui vont essayer de faire quelque chose aussi de leur vie, et peu importe ces choses-là, mais eux, c'est plutôt, ils ont une envie de peindre, de photographier. Vassili Schneider, c'est un photographe dans le film, un jeune photographe, et puis le personnage joué par Paul Kirchner, lui, c'est un peintre. Oh, il est déjà 13h. Je vais finir en vous disant d'aller découvrir ce film de Cédric Clapiche. Et puis, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, même lieu, même heure. Je rappelle, en attendant demain, de nos invités, qu'on découvrira dans quelques mois dans un cinéma de Tours. On l'espère en tout cas. Et puis, on lui souhaite longue vie en festival. Je vous donne rendez-vous du coup la semaine prochaine, et tout de suite maintenant, le journal de RFI sur Radio Campus Tours. Ciao !